trottoirs. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre.
C'est nous, canuts, nous sommes tous nus.
Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde et l'on entend déjà la révolte qui gronde.
Vous êtes toujours dans Remue-Ménage, Ondes Femmes, Radio Zone 93.8, et nous évoquons l'exposition qui a pour titre « C'était pas tous les jours dimanche » sur la vie quotidienne du monde ouvrier à Genève entre 1890 et 1950, que vous pouvez voir à l'annexe du musée d'ethnographie de Conches à Genève.
Oui, moi ça m'a étonnée, en partie que les gens gardent tous ces objets, tous ces outils qui sont quand même liés à... Oui, les outils du métier. On voit beaucoup ces outils. Puis il y a aussi ces outils, ces objets complètement de la vie courante. On se dit simplement ils ne les ont pas jetés. Il y a une partie, on se dit ils ne les ont pas jetés parce que ça pouvait toujours servir. Puis une autre partie, on se dit ceux-là, ils les ont vraiment gardés. Il y a vraiment une intention de garder des souvenirs, des outils.
Bon, moi, je pense que c'est assez difficile d'analyser le pourquoi quelqu'un garde ou quelqu'un garde pas, et il faut pas mettre trop d'intention dans les gestes. Je crois que contrairement à ce qui s'était passé pour la collecte école, où on pouvait vraiment détailler le geste de garder, même s'il n'était pas tout le temps fait dans un but de postérité, mais quand même le déménagement donnait lieu à un tri. Et les cahiers d'école étaient triés, étaient mis dans un carton qui devenait de plus en plus petit. Et en fin de vie, il restait des choses de l'école et il y avait une intention de les garder. Et à la fin de toute la collecte, on pouvait savoir à coup sûr qu'est-ce que quelqu'un avait gardé, si quelqu'un avait gardé quelque chose de l'école. Et ça marche, hein, on peut continuer à le vérifier tous les jours. Par contre, avec cette collecte aussi vaste, je crois que là, on est faux si on essaye d'analyser ça de trop près, parce qu'il y a trop de faits de hasard. Alors, en ce qui concerne les métiers, ça c'est l'évidence. Un artisan, alors, vous me direz, on fait une exposition sur les ouvriers, pas sur les artisans. Mais il se trouve que tous les ouvriers du bâtiment avaient une relation avec leurs outils, qui sont ceux de l'artisan. Ils sont propriétaires de leur caisse à outils. Et la caisse à outils d'un tailleur de pierre, même le jour où il arrête de tailler des pierres, il la garde. Il la garde parce que ça fait partie de sa vie. Donc au moment où... alors c'est l'aubaine, le musée. Un musée qui s'intéresse à ça, il peut donner sa caisse à outils, donc elle ne va pas disparaître, parce que forcément, autrement, elle disparaîtrait au moment de son décès. Donc, ça ne m'étonne pas beaucoup que tous ces objets aient été conservés. Alors, les objets du ménage, les objets de rien, ça, c'est plus difficile à comprendre. Alors, moi, je crois que c'est un phénomène très simple. Les gens... ont été éduqués, ont passé toute leur vie dans un système culturel dont la base c'était l'astuce et l'économie. On économisait, on jetait pas parce que ça se faisait pas, parce qu'on n'avait pas d'argent pour remplacer les choses. Donc on récupérait, on réparait, on gardait. Alors quand un objet devient obsolète, quand on l'a remplacé, etc., cet objet, on le met un petit peu plus loin dans sa cuisine, il monte tout en haut du rayonnage dans la cuisine, et puis ensuite il passe au grenier, si on en a un, ou il passe à la cave. Puis les caves, elles se remplissent. Et notre appel, avec cette liste, a fait réagir les gens parce qu'ils se sont dit « Tiens, ça c'est quand même une bonne occasion de garder. » Puis là, je crois que Christian, il peut vous en dire beaucoup sur le moment où, des fois, il était pris pour vider le grenier. Donc, ce n'était pas non plus ça qu'on voulait faire. Mais ces objets-là, il y a ceux qui les ont gardés parce qu'ils avaient la place. Il y a ceux qui les ont gardés parce qu'ils gardaient tout. Et puis, il y a ceux qui ont dû les jeter parce qu'ils n'avaient pas la place. Alors, le succès de l'exposition, parce qu'il faudra bien qu'on en parle, c'est aussi étonnant. Les gens viennent voir un hachoir à viande ou un panier à salade
qu'ils ont éventuellement
dans leur cuisine. Et le succès de l'exposition, il est là. Il est là, c'est que les gens, ils se trouvent face à un objet qu'ils ont eu ou qu'ils auraient pu avoir. Et le choc, il est là, et c'est pour ça qu'ils vont ramener leur grande-tante, leur petit-fils ou leur ami pour venir voir le panier à salade qu'ils auraient pu avoir ou qu'ils ont eu.
Finalement, ça les aide à reconstituer leur propre passé, en quelque sorte, l'exposition.
Ah oui,
certains qui ont oublié que dans leur famille, c'était comme ça il n'y a pas si longtemps
mais
que ça.
Mais nous, on a commencé tout ce travail sans penser qu'on allait toucher à ce point-là les gens. On a commencé en se disant, bon, il faut qu'on fasse, qu'on s'ouvre une fenêtre sur le monde ouvrier. Et puis, en cours de travail, on s'est rendu compte qu'abordant tout ça à travers la lunette vie quotidienne, on n'était pas du tout dans une définition classique du monde ouvrier. On dépasse complètement les catégories. On est face à une population qui doit vivre sa quotidienneté face à un budget modeste. Qu'il soit ouvrier, qu'il soit petit artisan ou qu'il soit... Ou qu'ils soient employés, vendeuses, etc. Tout ça n'intervient que très peu. Le monde ouvrier, il est plus concerné par les luttes, il est plus concerné par le lieu du travail, parce que comme ils sont ensemble, évidemment qu'ils avaient une force et des revendications dont tout le monde a bénéficié.
Alors justement, par rapport à ça, quels sont, par exemple, vous Christian, quels sont les événements ou les moments de cette vie dont les gens vous parlent surtout? C'était le premier vélo, la première TSF.
Il y a déjà deux aspects assez différents, je crois, qui est intéressant de noter. C'est un homme ou une femme. Bon, au niveau de la collecte, il est vrai qu'on a eu plus de réponses de femmes, surtout qu'à un certain âge, il y a beaucoup plus de veuves, elles sont majoritaires. Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que c'est... Enfin, une mauvaise chose, je veux dire, pour notre enquête, les femmes, celles qui sont un peu les détentrices de la mémoire, et dans un couple, lorsqu'on les interviewe, c'est vrai que c'est le monsieur qui va s'asseoir avec vous à table et madame sera à la cuisine, mais c'est elle depuis la cuisine qui va répondre aux questions et qui va se rappeler des dates et des fêtes. Il y a des marques comme ça. C'est quand ils parlent un peu de leur vie, où les ouvriers, c'est leur jeunesse quand ils sont apprentis. Ils se souviennent très bien, ils ont dû souvent se déplacer à gauche et à droite pour trouver du travail. On allait travailler en France pour remplacer ceux qui étaient partis sur le front, par exemple la guerre de 14-18. Ensuite, il y a les premiers patrons, alors ça c'est vrai que c'est important. Après, il y a les dates clés, la guerre de 14-18, les années 30, ça c'est évident. Et pour les femmes, il y a le mariage. Elle vous dira, une dame vous parlera beaucoup de son enfance, de tout ce qu'elle a fait, du travail de couturière, de son école de couture, et puis elle s'arrêtera et elle dira, voilà, je me suis mariée. Après, je me suis mariée. Puis c'est tout. Comme si le fait de s'être mariée, dans le fond, sa vie ne lui appartenait plus, sa propre vie. Et Dieu sait s'il aurait beaucoup de choses à raconter sur ses difficultés d'élever des enfants et des bas salaires, et des choses comme ça. Alors, et ensuite, bon, il y a la retraite aussi qui marque un pas très important. Mais ils parlent peu de leur retraite. Je pense qu'on parle avec des personnes assez âgées, les souvenirs d'enfance ou de leur jeunesse sont beaucoup plus vifs. Et plus on se rapproche des années récentes, et plus ça devient difficile et il faut réfléchir.
Mais par exemple, on l'a dit à plusieurs reprises, c'était pas tous les jours dimanche, c'était dur. Et puis il y a eu des moments très durs quand même autour des années 30, la crise économique. Est-ce que ça, c'est un des moments dont vous a parlé, difficultés?
Oui, bien sûr. Mais chaque fois, ils remettent quand même dans le contexte. J'ai pas l'impression de me trouver vers des gens, il y a eu peu de gens aigris. Quelques-uns, vraiment, rouspétaient, non, c'est vraiment abominable, on a beaucoup souffert. Mais c'est peu vrai. La plupart vous diront, mais c'est vrai que c'était dur, mais c'était dur pour mes voisins, c'était dur pour tout le monde. On n'avait pas de point de comparaison. Maintenant, on peut le voir avec du recul, mais à l'époque, bon, bah, tout le monde était dans le même bain. Et il n'y a pas eu cette... c'est difficile à dire. On parle aussi, c'est vrai, beaucoup des luttes syndicales. Alors, certains ouvriers vont parler des problèmes qu'ils ont eus avec leur patron de chômage, avec les problèmes de lutte syndicale. Mais il y a aussi toute cette frange de la population. Dans le fond, à cette époque, il y avait une quinzaine de pourcents, je crois, de personnes qui étaient syndiquées, vraiment. Et il y a tous les autres. On parle des ouvriers, mais beaucoup de gens m'ont dit « Bon, cette exposition, c'est pour vos ouvriers. Moi, je vous donne des objets. Je n'étais pas ouvrier, j'étais petit commerçant ou mon père était un employé de banque. » Et dans le fond, ils avaient les mêmes problèmes. Ils ne gagnaient pas beaucoup plus. Les ouvriers qualifiés étaient comme des gens reconnus, respectés. Et il y a plein, toute une frange de la population qui étaient des petits employés qui avaient exactement les mêmes problèmes. Et ces gens se sentent aussi concernés.
Et est-ce que les objets sont si différents que ça, des ouvriers que des autres?
Parce
que
justement, les objets sont les mêmes. Les quelques différences seraient peut-être des chaufferettes en bronze ou en cuivre dans les familles bourgeoises. Mais sinon, les objets de cuisine sont les mêmes. Les objets de tous les jours sont beaucoup les mêmes.
Oui, ils sont même à ce point-là les mêmes. Si on prend un thème comme celui de la lessive, vous alliez retrouver exactement les mêmes objets, donc presque rien, dans une famille bourgeoise ou dans une famille ouvrière, parce que comme la famille bourgeoise allait avoir une femme de lessive pour faire sa lessive, eh bien, elle a la même chose, puisqu'elle a une petite main pour faire sa lessive, donc elle aura aussi juste sa cloche à lessive, sa planche à lessive, les deux, enfin, ce qu'il faut. Donc, on trouve vraiment les mêmes objets. C'est pour ça que les visiteurs, c'est pas seulement des ouvriers, c'est vraiment tout le monde, et tout le monde se retrouve.
Tous les vélos que j'avais utilisés avant le mien étaient ceux de mes employeurs successifs. C'était toujours des vélos à frein torpedo, genre militaire. Pour freiner avec ce système, il fallait donner un coup de pédale en arrière qui actionnait le frein placé dans le moyeu de la roue arrière. Sur la roue avant se trouvait un frein à tambour mu par un câble commandé du guidon par une poignée. À la barre horizontale du cadre était suspendu un panneau qui remplissait tout l'espace au-dessus du pédalier et sur lequel figurait le nom de la maison, par exemple, boucherie Durnier, annonce c'est ça, établissement La Gaîté, etc.
Et la lessive, elle se faisait à la cave?
Bonne partie, des fois au grenier.
La chambre à lessive était à la cave.
Menée à la rue du Vélodrome, elle était au grenier.
Au grenier, oui.
Oui, aussi. C'est vous? Oui, on habitait à la rue du Vélodrome. Au début, quand on était mariés, à la jonction, oui, en face des anciens abattoirs, et ben, elle était en haut, la chambre à lessive. Oui.
Ouais. C'était installé?
Oui, c'était installé.
Oui, il y avait deux bassins et une chaudière.
Deux bassins et une chaudière. Ouais, ouais.
En général, c'est ce qu'il y avait, il n'y avait rien d'autre. Hein. Il y avait de temps en temps dans les maisons un peu
essoreuses.
Il y avait une essoreuse, mais c'est tout. Ouais. Pour dégrossir, le linge était trempé la veille avec une solution d'eau un produit à base de soude. Et puis le lendemain, ben, il fallait dégrossir et puis mettre cuire ce linge dans les grandes chaudières. Puis on rinçait dans les bassins après.
Et vous faisiez l'étendage
oui, il fallait
au grenier ou...
Une partie, c'était le grenier, je crois. Puis le toit. C'était pas sur le toit. On pouvait aller sur le toit, oui.
On pouvait aller sur le toit, mais quand il faisait mauvais temps, il y avait une pièce à côté de la chambre à lessive qui était... Il y avait des fils tendus partout, puis on étendait comme ça.
Alors, il y a toute une série d'autres documents, objets, photos, documents écrits, alors là, qui proviennent peut-être plus des fonds du Collège du Travail, entre autres, qui retracent l'histoire, à ce moment-là, justement, de ces luttes qui ont secoué la Genève rouge des années 30.
Oui, parce que dans la partie, au rez-de-chaussée, où on parle de la vie au travail, c'était inévitable qu'on mette aussi les luttes pour l'amélioration des conditions de travail. Ça, c'est inévitable, ça fait partie, c'est une seule et unique chose, je pense. Et on parle de la vie ouvrière, des ouvriers au travail. C'était une lutte continue. Des fois, elle était ouverte, des fois, elle était cachée, elle était moins visible, Donc, le Collège du Travail, c'est à des archives de documents, de photos sur cette époque. Et surtout, le Collège du Travail a une documentation sur des archives sur le bâtiment, sur le secteur de la construction. Et c'est justement là qu'il y a eu une épopée de lutte sociale incroyable, à Genève en tout cas. Et donc, on ne pouvait pas ne pas utiliser ces documents parce qu'ils sont vraiment significatifs de la vie ouvrière à Genève. C'est-à-dire un secteur, la construction, qui regrouperait quand même je ne sais pas exactement quelle proportion, mais bien un tiers de la main-d'œuvre ouvrière à Genève. Et qui vivait dans des rapports de travail complètement sauvage, très très difficile, tandis que dans les entreprises, les autres secteurs, les conditions de travail étaient un peu plus réglementées, un peu plus négociables, tandis que dans le bâtiment, c'était le Far West, et il y a eu des luttes très très intéressantes. Genève.
Alors il y a une partie, en tout cas une partie sur le 9 décembre 1932. 9 novembre. Est-ce qu'on vous a parlé de cet événement ou est-ce que ça vient plutôt du Collège du Travail ou ça a été une rencontre des deux?
C'était une rencontre des deux. Le Collège du Travail disposait des documents, je crois aussi des photographies. C'est un sujet qui est évidemment très connu, c'est un sujet qu'on n'a pas voulu non plus peut-être trop développer, mais qui était inévitable d'en parler. Et les gens en parlent.
Symbolique, c'est une phase, voilà, symbolique. C'est
parce que ils ont des photos, ils ont des traces de cet événement qui leur restent, des articles de journaux.
Des photos, pas beaucoup, mais les gens gardent des articles souvent. Ouais, chez eux, ils vous ressortent un article, même s'ils n'ont pas participé. Mais ils ont des... Je ne sais pas, il y a un monsieur qui nous a donné une radio. La radio, son histoire de cette radio, c'est qu'elle devait être livrée le 9 novembre. Et puis le livreur, il n'a pas pu passer parce que la ville était complètement bouchée. Il l'a reçue seulement le lendemain. Et c'est le livreur qui lui a dit, voilà ce qui s'est passé. Donc tout le monde a un souvenir, une anecdote. Ça a quand même marqué beaucoup les gens.
Oui, c'est l'événement, je pense, le plus dramatique de la vie ouvrière à Genève. Disons, c'est le plus... Et tout le monde a été marqué, même les ouvriers qui n'étaient pas syndicalistes ou politisés, c'est évident.
Et ce 9 novembre, au fond, dans la démarche de préparation de l'exposition, effectivement, d'un côté, nous, on savait que ce 9 novembre était important, on savait qu'il y avait des tas de documents historiques, on savait qu'il y avait de quoi faire une exposition entière sur ce 9 novembre. Et puis, si vous voulez, nous, on attend... les gens au contour, on se dit comment est-ce que ça va apparaître chez les gens ou pas, et c'est ça qui nous met. Alors ça apparaissait, c'est vrai, ça apparaissait, il y avait l'avant et après, souvent c'était cité ou c'était à travers des objets, mais en même temps nous on l'a cité un petit peu parce que tout le monde nous le citait, parce que c'est un repère absolument incontournable. Puis en même temps, on n'a pas fait. C'est très modeste dans notre expo, parce que quelque part, il suffit de marquer 9 novembre 32 et les gens font eux-mêmes tout ce travail. Et puis en plus, qu'est-ce qu'on en a parlé cette année? Donc même les jeunes, ils ont une réaction par rapport au 9 novembre. Donc il n'y avait absolument aucune raison d'en faire trop, mais on ne pouvait pas passer à côté.
Je vous propose d'écouter un tout petit bout d'interview qui raconte, entre autres, le témoignage de quelqu'un à propos du 9 novembre.
Il fallait aider, bien sûr. C'est grâce à tous ces gens-là qui ont souffert, hein, souffert du patronat, de tous, et c'est là que ces gens-là, maintenant qu'on a eu l'AVS et qu'on a tout ce qu'on a, qu'on est quand même payé en cas de maladie, qu'on a des caisses maladie et tout, hein. Vous savez, il y a... J'ai pris une toute petite part à ces choses-là, bien légère, parce que moi, on n'avait pas l'activité à faire comme Lucien Conchet, comme l'équipe.
Bien sûr, non, mais vous étiez un militant de la base.
Oui, il fallait y aller, on allait, il y avait les assemblées. Je me rappelle, quand il y a eu la grève, après le 9 novembre, hein, on a reçu là, il y avait le facteur qui arrivait pour me donner des express, parce qu'il y avait vite une assemblée, on avait les assemblées là au Taïro, on avait les assemblées, on avait voté la grève et tout, là il y avait des dissensions et tout. Et puis le lendemain matin, ben moi je suis arrivé à l'atelier du service des eaux, et puis bon, on était presque tous syndiqués, il y en avait un qui était catholique, qui n'était pas syndiqué, bref. Alors j'ai dit, on ne travaille pas aujourd'hui. Hein. Alors, M. Meyer, le chef d'exploitation. J'ai dit, M. Meyer, on a voté la grève hier soir, on ne travaille pas. Alors, on ne va pas travailler aujourd'hui, vous voyez. Parce qu'on a une journée pour... faut penser à tous ceux qui ont été tués, tout ça, les 13 morts qu'il y a eu, et puis on ne travaille pas, et puis voilà. Oh, vous savez, alors, il parlait comme ça. Hein. Puis c'était un profitard et tout. Hein, c'est... Là aussi, il y a...
Alors voilà, je crois que vous donnez un aperçu de la façon dont les gens évoquent certains événements et l'importance qu'ils ont pour eux. Il y a une chose qui m'a frappée, et ça je m'adresse à tous et à toutes, c'est la place que la femme a dans cette exposition. Alors bien sûr, nous connaissons bien Christine Détrin, nous connaissons bien Alda de par son travail, et on se dit c'est peut-être elles qui ont réussi à imposer la présence de la femme. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé?
Mais bien sûr. Et puis en plus, la femme s'est imposée d'elle-même. Les femmes sont les principales personnes qui ont répondu à l'appel, les principales donatrices, prêteuses. Et puis, dès qu'on parle vie quotidienne, ben évidemment, c'est la femme qui occupe, qui est là, qui est au centre de toutes les activités. Alors, la femme, elle est surtout très présente, elle est très, très présente dans la partie, évidemment, de ce premier étage qui est sur le quotidien. Dès qu'on arrive au premier étage, on arrive dans un monde féminin. Que ce soit lorsque l'on évoque, au fond, cette catégorie de personnes, c'est 20% de la population active féminine qui exerçait un métier, une activité, mais qui ne travaillait pas en usine ou en atelier, mais qui était employée comme domestique. Là, ce sont des femmes. En grande majorité, on a évoqué ce problème particulier de toute cette catégorie de personnes dont les difficultés allaient être encore amplifiées, parce que même s'il y avait un contrat collectif depuis 1938, de toute façon, elles étaient dans un rapport très difficile avec le patron ou avec la patronne, qui allait pouvoir très facilement passer par-dessus toutes les obligations qui auraient dû avoir lieu, comme le dimanche de congé, etc. etc. Donc là, on est en plein monde féminin. Ensuite, on a pris un objet fétiche de notre collecte, qui est la machine à coudre. Et là, on est évidemment en plein monde féminin. La machine à coudre, c'était un objet fétiche parce que c'est un objet où vraiment là, on a répondu à une demande carrément sociale. Les gens nous ont donné leur machine à coudre, c'était le grand ouf, avoir enfin un lieu où donner ce bien précieux qu'on n'utilise plus depuis 40 ans, mais qu'on a acheté avec tellement de sacrifices et qui a joué un rôle tellement grand dans la famille. Alors il faut, on l'a conservé, on l'a absolument conservé. Et puis notre collecte était l'occasion de le donner dans un endroit sûr. Un musée, c'est un endroit sûr, cet objet, il est là pour les générations à tout jamais enregistré. Alors, là, évidemment, avec les machines à coudre, c'était la possibilité de faire le passage entre la machine à coudre, c'est à la fois la possibilité de boucler le budget de fin de mois, donc on est encore dans le travail, et puis c'est aussi la possibilité de travailler pour sa famille, de raccommoder, de faire les habits. Donc là, on est entièrement dans un monde féminin. Et puis, toute la vie quotidienne, le manger, le dormir, les soins aux enfants, les achats, les stratégies d'achat, tout ça, c'est les femmes. Alors là où les femmes, on s'est demandé quelle était réellement la place de la femme, c'était par rapport à la gestion du budget. Parce que sans réfléchir, on dit bah, la femme, elle est forcément, c'est elle qui gère le budget. Et c'est vrai que dans toutes les situations difficile, c'est elle qui gère le budget, c'est elle qui nous parle du budget, c'est elle qui nous dit combien c'était difficile parfois à la fin du mois, c'est elle qui a trouvé les astuces de raccommodage, d'économie, de tout ce savoir-faire d'un budget très restreint. Mais quand il s'agit de gros achats, on s'est demandé qui avait le pouvoir de décider. Parce qu'on se rendait compte que, entre la machine à laver et la radio, c'est chaque fois la radio qui a gagné. ou entre la radio et l'aspirateur, c'est chaque fois la radio qui a gagné. Et à ce titre-là, il y a une très très intéressante étude qui a été faite en 1954 par le Mouvement populaire des familles sur l'équipement ménager des différentes familles modestes en Suisse romande, 1954. 100% avaient la radio. C'est extraordinaire comme chiffre. 100% avaient la radio et la radio était devenue un bien insaisissable au niveau de la loi. C'est-à-dire que si vous
comme
avez...
un lit.
Comme un lit. Voilà, vous êtes aux poursuites, vous avez le droit de garder votre lit et votre radio. Par contre, seulement 30% avaient une... 20% avaient une machine à laver, 30% avaient un aspirateur, etc. Donc, tout ce premier étage, c'est vraiment, il est vraiment réservé aux femmes parce que les femmes s'imposent quant à la gestion du quotidien.
Et puis, elles s'imposent aussi, c'est ce qu'on a découvert, elles s'imposent aussi au niveau du travail parce qu'on s'est aperçu que pendant cette époque, bon, avec des différences selon les périodes, hein, parce que c'est une longue période, 1890-1950, mais disons, grosso modo, elles sont très présentes au niveau du travail salarié. Elles sont dans toutes sortes d'usines, elles sont aussi dans ces petits métiers qui sont typiquement féminins, qui ont de plus en plus disparu actuellement, qui sont lavandière, tout ce qui est faire des lessives, faire des ménages, repasser à domicile, etc. Tout ce travail à l'heure qui était une soupape de sécurité très importante et qui fait partie aussi de cette identité ouvrière de la femme qui bouclait un petit peu les fins de mois, qui aidait un petit peu le budget familial en faisant des ménages, des heures de lessive et de repassage. Et ce travail, on a compris qu'il se faisait au moment après le mariage, c'est-à-dire la femme ouvrière travaillait jusqu'au mariage, jusqu'à la naissance du premier enfant, et puis après, elle s'arrangeait pour travailler à l'heure et pour travailler dans le quartier. Et on a vu aussi qu'il y a eu beaucoup de femmes qui, au moment de la crise des années 30, reprenaient un travail. Soit elle travaillait plus à l'heure dans ses petits travaux, soit elle reprenait carrément un travail d'usine. Et c'est elles qui ont fait marcher, disons, qui ont ramené l'argent du ménage pendant que les hommes étaient au chômage. C'est-à-dire qu'il y a eu un emploi féminin très important pendant les années 30 et aussi pendant la Première Guerre. C'est-à-dire qu'il y a eu l'industrie de l'armement qui a embauché relativement beaucoup de femmes à Genève. Donc ça, c'est aussi des flashs qu'on a pu entrevoir de la vie ouvrière du côté des femmes. C'est-à-dire ces femmes qui ont produit des munitions, qui ont travaillé, qui ont été embauchées par centaines et des centaines pendant la guerre pour produire des munitions, pour produire des armes, pendant que leur mari, leur frère, leur père étaient au chômage et puis qui ont fait vivre.
Et
puis il y en a aussi qui... C'était, disons, ouais, il y a des avis,
il y a des ambiguïtés,
il y a des témoignages,
des femmes
très
qui travaillaient, et cette phrase qui date des années 40, je crois, qui dit l'essentiel pour le ménage, pour le mari, c'est pas l'argent que la femme va ramener, mais c'est l'argent qu'elle peut économiser en restant à la maison.
Ouais. Ah, bien sûr, le modèle était effectivement déjà le modèle
la famille,
de rester,
la maison,
à la maison, mais en faisant des heures ici et là, c'était le salaire d'appoint.
Mais on vous a confié, y compris des objets extrêmement intimes, puisque on vous a même confié d'anciennes bandes hygiéniques. Vous nous affichez des textes qui concernent les discussions datant d'une recherche 1906 sur les moyens de contraception. Là, vous entrez quand même sur des sujets que l'on retrouve rarement dans les expositions.
Oui. Enfin, quand on aborde des sujets comme ça... ce qui s'impose, c'est que on devrait vraiment continuer à faire une exposition uniquement là-dessus. Parce qu'on n'a vraiment qu'aborder le sujet. On se rend compte qu'avec les personnes âgées, c'est des sujets qu'on peut tout à fait aborder.